Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui de nouveau sur l'émission Les Voix de l'Engagement. Je reçois aujourd'hui trois acteurs engagés qui viennent partager avec nous leur expérience, leur activité professionnelle, de passion aussi pour l'une de nos invitées, Charlotte Braquet, dont je vous parlerai tout à l'heure. Sylvain Cousseau, directeur général de Parage, merci d'être venu Sylvain.
Je t'en prie.
Charlotte Braquet, comédienne. Mais aussi directrice d'établissement, elle a dirigé des établissements en Seine-et-Marne je crois.
Seine-et-Marne, 93 et dans le Nord.
Voilà, et puis Suzanne Fugier qui nous vient de Move Enfance, je crois qu'elle est porte-parole chez Move Enfance. Merci Suzanne de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors je me tourne vers Sylvain. Sylvain est un acteur professionnel engagé de longue date que je connais bien et qui a depuis des années dirigé des services, il a ouvert des dispositifs, il a accompagné des professionnels. Sylvain est un directeur gestionnaire, excellent gestionnaire, mais c'est un directeur d'abord de terrain qui est crapahute avec les éducateurs, avec les chefs de service pour aller rencontrer les personnes les plus vulnérables, pour mieux sentir le terrain, mieux les connaître, pour justement mieux cerner leurs besoins. Bravo Sylvain, je te remercie d'être venu parce que justement ce crapahutage dont je parlais, cette déambulation dans les services, sur le terrain, etc., t'a amené à embrasser une autre profession, celle de directeur général. Hein, c'est-à-dire que quand on se l'imagine directeur général, c'est on est là-haut dans une tour et puis on pense les projets, etc. Mais je t'ai vu faire, tu es directeur général d'un dispositif aujourd'hui national qui s'appelle Parage. Et je t'ai vu accompagner des professionnels sur le terrain, des professionnels engagés et que tu guides au quotidien pour un meilleur impact en réalité et une meilleure, un meilleur déploiement de ces projets dont tu nous parleras tout à l'heure qui, autour des compétences psychosociales. J'ai bien résumé, Sylvain.
Oui, la compétence psychosociale en termes de prévention des conduites addictives, tout à fait.
Voilà, très bien. Et du coup, tu nous en parleras tout à l'heure. Suzanne, tu es engagée aujourd'hui, porte-parole chez Move Enfance. Je crois que c'est un engagement qui est à la fois personnel. Tu travailles dans le social. Tu nous en diras plus parce que ça t'appartient et tu nous en parleras un peu plus. Mais je voudrais qu'on parle rapidement de où est né Move Enfance. Move Enfance est né à Paris. Mais c'est un mouvement qui a très très vite essaimé un peu partout en France et dans les dom-toms. Arnaud Gallet en est un peu le chef de file. Toi, tu en es la porte-parole. Il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent autour de Move Enfance et qui essayent de partager le réel en fait de ces violences sexuelles faites aux enfants, parce que c'est de ça dont on parle. Un sujet important qui occupe aujourd'hui l'espace public, médiatique, on en parle peut-être pas suffisamment, mais tu nous le diras tout à l'heure, qui Move Enfance est né de la Civise, de la création de la Civise et puis de la fin de la Civise surtout, puisqu'Arnaud Gallet en était membre sous la présidence d'Edouard Durand, et aujourd'hui il a créé Move Enfance avec d'autres et il est impliqué pour essayer de révéler ou de partager un certain nombre de sujets aujourd'hui qui occupent le terrain, pas toujours médiatique, parce que je crois que lui aussi essaye de sensibiliser sur des sujets qui occupent des territoires avec des personnalités, etc., parfois protégées, qui ont participé ou pas à des choses de cette nature, mais tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Charlotte Braquet, tu es comédienne, tu as écrit une pièce de théâtre, et si tu es là ce soir, c'est évidemment que cette pièce de théâtre, elle, quelque part, elle a un lien sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de cette pièce ?
Oui, très rapidement. Donc la pièce s'appelle « Si c'est une fille, on l'appellera Violette », et ça met en scène un couple dans un processus, d'abord dans un désir de parentalité, puis rapidement dans un processus d'assistance médicale à la procréation face à l'échec, on va dire, de parentalité naturelle, et qui en fait va sur plusieurs années se confronter à bien plus grand que finalement leur infertilité respective, et qui va du coup voilà, les confronter eux-mêmes en fait à toutes les méconnaissances qu'ils ont sur leur propre parcours, notamment d'enfant, et sur l'impact que ces parcours traumatiques-là d'enfant ont aujourd'hui dans leurs souhaits respectifs de devenir parents, et comment en fait ils sont des éléments bloquants, voire des obstacles indépassables à cette projection qu'on doit tous avoir à un moment donné dans ce passage de la vie d'enfant à la vie d'adulte, voire même à la vie de parent, papa ou maman. Voilà. Alors, c'est une fille, on l'appellera Violette, parle de tout ça.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous revoilà sur l'émission Les Voix de l'Engagement, avec toujours avec nous Suzanne, elle n'est pas encore partie, Charlotte et Sylvain qui sont toujours avec moi pour nous partager leur réalité de terrain. Une réalité de terrain qui est souvent difficile, éprouvante, contraignante parfois, mais aussi avec de l'impact, des résultats, des choses positives aussi qui peuvent apparaître ici ou là et qui redonnent un peu de carburant à nos acteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, ceux présents ici, mais ceux qui sont aussi quotidiennement sur le terrain et qui essayent de faire la différence quotidiennement avec les publics qu'ils ciblent. Aujourd'hui, Sylvain, tu nous rejoins pour nous aussi nous parler, et je te remercie de l'invitation, de venir parler d'abord ton parcours, parce que Les Voix de l'Engagement, c'est aussi une émission qui a vocation à inspirer les professionnels, les futurs professionnels qui nous écoutent. Si vous êtes comptable et que vous en avez marre des chiffres, eh ben écoutez Sylvain, peut-être ça vous donnera envie de revoir un petit peu votre parcours de vie, de carrière, etc. Écoutez aussi peut-être Charlotte qui vous en dira un peu plus, ou Suzanne. C'est aussi l'objet de l'émission. Sylvain, qui tu es ?
Alors, bah écoutez, un vaste programme, si je puis dire. Les comptables, il en faut quand même, hein, tu sais. Mais par contre, vous pouvez venir travailler dans des associations qui aident les personnes vulnérables plutôt qu'être comptable dans d'autres secteurs. Voilà, mais il y a toujours besoin d'avoir des comptables. Même, voilà, c'est pas forcément les gens de terrain exactement auxquels on pense, mais on en a aussi engagés dans nos associations. Moi, j'ai commencé finalement la lutte contre le sida en coordonnant des associations de lutte contre le sida. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai rejoint la protection de l'enfance, où j'ai effectivement développé et dirigé plusieurs établissements. Pendant de nombreuses années, presque 25 ans maintenant. Et je reviens maintenant, alors je suis loin encore d'être directeur général comme tu l'annonces, hein, je suis juste coordinateur, mais voilà, j'ai rejoint finalement mes premiers amours de coordinateur, mais du projet Parage, donc un dispositif qui est porté effectivement par le groupe SOS, qui est en plus groupe SOS Jeunesse et Solidarité, donc ça c'est intéressant parce que c'est effectivement des secteurs différents au service d'une même cause. Et Parage, ça veut dire prévenir, accompagner, réduire les risques des conduites addictives chez les jeunes et enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc c'est effectivement un nom à rallonge, mais ça exprime bien ce que
oui,
c'est.
Oui, tout à fait.
Et donc, effectivement, avec une double action en direction, premier lieu, des professionnels, pour évidemment les former au niveau des addictions, pour qu'ils comprennent et qu'ils apprennent mieux ce que c'est les conduites addictives, et évidemment auprès aussi des publics que sont les enfants, les jeunes et les parents. Donc il y a aussi cet axe de, on va dire, sensibiliser, de comprendre ce que c'est le phénomène d'addiction, surtout pour éviter de stigmatiser les personnes, pour comprendre que l'addiction c'est une maladie et que donc les personnes, si les personnes sont malades, elles peuvent être soignées, et avant d'être repérées pour savoir effectivement si le problème de consommation lié à une substance psychoactive comme tabac, alcool, hein, qui sont les deux principales en France et causes de mortalité, de difficulté, donc si les personnes, effectivement, qui sont, on va dire, consommatrices, sont des consommatrices à gros problèmes qui doivent être orientées pour du soin, ou si des consommations qui, finalement, peuvent être récréatives ou ne posent pas trop de problèmes. Parce qu'on est tous concernés par les consommations de produits. Hein, tout le monde boit un petit verre, fume une petite cigarette. Et maintenant qu'il y a des addictions sans substance, notamment avec les écrans, là, voilà, ceux qui disaient « Non, moi, je bois pas, je fume pas. » généralement ils regardent quand même un petit peu leur téléphone. Donc voilà, pour dire qu'effectivement tout le monde est concerné par des consommations. Après, l'idée c'est d'essayer de mieux repérer pour ensuite mieux orienter et s'il y a besoin effectivement de pouvoir soigner et accompagner les gens. Et en protection de l'enfance, malheureusement, comme il y a des parcours difficiles avec des situations traumatisantes évidemment, parfois les personnes se mettent à consommer et comme un pansement. En tout cas, voilà, comme une solution temporaire, on va dire, on espère pour ces personnes-là pour moins souffrir, tout simplement. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup de situations en protection de l'enfance qui sont liées à des traumatismes, à de la violence. Et donc, prévenir les conduites addictives, c'est aussi donner les armes à ces personnes. Donc, mieux connaître les phénomènes d'addiction, ça c'est important. Mieux repérer, connaître les produits ou même les écrans. Et savoir comment s'en protéger. Et après, et s'y prévenir. Et comme on s'adresse évidemment à des enfants, à des familles, on s'adresse à des parents. Charlotte en parlait tout à l'heure, il y a la parentalité et le soutien à la parentalité qui est un axe évidemment très important en protection de l'enfance. Et tout ça, ça passe par le développement des compétences psychosociales, développement des compétences psychosociales très rapidement, les compétences psychosociales qui peuvent être évidemment d'ordre social, cognitif ou émotionnel. C'est tout simplement arriver à mieux gérer son stress, à mieux gérer ses émotions, mais aussi savoir dire non à la pression sociale. C'est aussi résoudre des problèmes de manière efficace ou communiquer aussi sans être agressif. Enfin voilà, il y a évidemment tout un panel de compétences psychosociales qui ont été repérées depuis les années 80 par l'OMS. Et donc mieux connaître et mieux développer ces compétences psychosociales, ça peut se faire à tous les âges de la vie, donc ça concerne les enfants mais aussi les parents. Voilà quelque chose que les professionnels de protection son enfance, dans leur engagement de tous les jours, peuvent apprendre pour ensuite mettre en place des ateliers, mettre en place des actions. Charlotte nous en parlera parce qu'il y a aussi des actions, des pièces de théâtre aussi pour développer les compétences psychosociales. Et ça offre un panel à des professionnels et à des familles, à des parents, pour mieux savoir comment agir, pour effectivement prévenir, pour que les gens soient mieux armés, on va dire. Il y a une autre association, on va dire, qui n'est pas en concurrence avec le MOUF parce qu'on a besoin de ça, mais il y a les Colosses au pied d'argile qui existent aussi. C'est plutôt les violences sexuelles dans le milieu du sport, si je ne me trompe pas. Et là, le Colosse au pied d'argile, c'est comment renforcer tous ces pieds d'argile, on va dire, comment, grâce à développement les compétences psychosociales, on peut se retrouver tous mieux équipés, mieux armés, c'est le cas de le dire, face à des agressions qui peuvent venir, à des sollicitations qui peuvent être évidemment de violence, mais qui sont aussi sur des conduites addictives. Donc c'est savoir dire non et puis savoir faire autre chose et être mieux armé face à la vie d'une manière très très large. Voilà un peu ce que se promet par âge, par différents programmes et différentes actions en direction donc des professionnels, mais également en direction des enfants, des familles et des familles qui sont suivies par les professionnels tous les jours.
Alors avant de parler, Sylvain, du déploiement, est-ce que tu peux nous parler quelles sont les données scientifiques, les recherches, c'est basé sur quelque chose de probant, de quelque chose qui a fait la démonstration, sur le plan pédagogique peut-être, ou sur le fond même, d'élaboration. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire quelques mots?
Tout à fait. Alors, pour le dire, Parage, qui est financé par le Fonds de lutte contre les addictions, c'est le Fonds de lutte contre les addictions qui finance ce projet. Et dans le dispositif, il y a un peu de recherche, parce que justement, malheureusement, les chiffres manquent énormément par rapport aux consommations et par rapport aux comportements, que ce soit des professionnels. Qu'est-ce que les professionnels connaissent de l'addictologie, des phénomènes d'addiction, et comment les jeunes consomment? Comment ils se comportent vis-à-vis des produits, des substances psychoactives ou des écrans même. Et ça manque énormément. Il y a une recherche là qui est sortie de l'Observatoire national de protection de l'enfance il y a peu de temps, avec un petit peu d'études. Et nous-mêmes, avec Parage, on va offrir, on l'espère, et avec l'Université de Caen, Normandie, le laboratoire de psychologie et l'enseignante chercheuse Jessica Mange, qui fait une recherche avec le groupe SOS Consulting pour avoir plus d'informations. Mais malheureusement, pour l'instant, on a peu d'informations sur ces sujets précis. Ça, c'était la partie de l'addiction. Et sur la partie des programmes qu'on déploie, il y a heureusement effectivement des mesures qui sont faites, et les programmes qu'on développe, il y en a un qui s'appelle ARPEJE et l'autre qui s'appelle PSFP, programme de soutien aux familles et à la parentalité. Et c'est le premier programme probant qui a été importé en France par la Haute Autorité de Santé. Et là, c'est mesuré en fait, tout simplement, par des mesures scientifiques qui montrent que si les familles sont assidues, si le programme est bien respecté par rapport à 14 séances de développement des compétences psychosociales avec des outils, des février, et bien effectivement le panel, on va dire, très large des avantages est atteint, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de l'agressivité, par exemple, dans la relation entre les parents et les enfants. Il y a l'amélioration aussi des résultats scolaires, alors ça c'est plus à long terme, mais aussi évidemment, une amélioration dans tout ce qui est, encore une fois, je l'avais dit, comportement entre parents et enfants, et ça se traduit notamment par la baisse de l'agressivité, ça je vous l'ai dit, et il y a aussi évidemment moins de conduite à risque, dont les conduites addictives, mais pas seulement les conduites à risque, ça peut être aussi des conduites violentes, des passages à l'acte au niveau délictuel et des choses comme ça. Donc effectivement, normalement les enfants, grâce aux mesures qui ont été faites, parce que le programme et ce programme-là, plus spécifiquement, hein, PSFP existe depuis les années 90 aux États-Unis. Donc il y a eu le temps d'avoir beaucoup de mesures. Et il a importé dans 15 pays. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui avait vraiment fait ses preuves. Et donc il y a effectivement des mesures. Et là, il vient d'être encore mesuré récemment. Et la Haute Autorité de Santé a regaranti, on va dire, le succès des familles si elles suivent ce programme et l'amélioration pour ces familles. Après, nous, le succès, en dehors évidemment de tout ce que la recherche peut faire, c'est souvent le bouche à oreille et les familles entre elles qui se parlent et qui voient l'intérêt de suivre ce programme ou d'autres programmes d'ateliers de compétences psychosociales comme on le déploie avec Parage.
Alors, à ceux qui nous écoutent, il n'a aucune note devant lui. Je vous assure que les acronymes, il connaît par cœur, il connaît son sujet, visiblement. Et alors, tout de suite, ce qui me vient là, tout de suite, Sylvain, c'est l'ambition. Elle est immense quand même, hein, réduire les risques, etc. Comment est-ce que ces outils se déploient? Si on parlait simplement du Val d'Oise, parce que tu l'as déployé sur le Val d'Oise, PSFP sur les Yvelines, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler sur ce déploiement? Comment concrètement ça s'incarne sur les territoires?
Tout à fait. Le projet tel qu'il a été pensé, donc à l'origine, non pas par moi, en fait, c'était l'embauche de binômes, de professionnels, effectivement, engagés, comme tu pourrais le souligner, qui sur chaque territoire vont déployer différentes modalités. Alors il y a des formations qui sont mises en place, avec une formation ad hoc, hein, qui était construite pour la protection de l'enfance, hein, pour justement mieux sensibiliser les professionnels et qui connaissent mieux aussi le développement des compétences psychosociales. Et après il y a d'autres programmes. Et ces binômes, donc, qui ont été engagés, alors soit en interne, soit en externe, hein, au groupe SOS, ensuite interviennent et vont contacter des différentes structures de protection de l'enfance et des structures en addictologie pour essayer de mettre en place des partenariats. Donc dans le Val d'Oise, effectivement, on est par exemple à l'intérieur de différents établissements, dont ceux que tu diriges, mais également avec la sauvegarde du Val d'Oise, d'autres établissements, par exemple. Et dans les Yvelines, on a encore une toute petite validation qui a mis un petit peu de temps à arriver de la mairie de Mantes-la-Jolie, mais effectivement, ce problème de soutien aux familles à la parentalité où on va mélanger des familles de l'aide sociale à l'enfance et aussi des familles qui sont tout simplement orientées par un centre social ou par un centre de loisirs ou autre, des familles qui sont intéressées par ce projet. Et donc c'est notre binôme, donc Kimberly et Mathilde, en ce qui concerne les Yvelines et le Val d'Oise, voilà, qu'on salue évidemment, qui tout simplement, avec les contacts qu'elles prennent et tout ce travail de terrain, prennent contact avec les professionnels et avec les jeunes, hein, puisqu'ensuite il y a des temps d'immersion pour mieux se présenter, mieux être identifié par les professionnels et par les jeunes, parce que vous imaginez bien que pour commencer à suivre des ateliers, pour commencer à parler de soi éventuellement, pour commencer à parler éventuellement même de ses consommations ou autres, il faut qu'il y ait un minimum de confiance. De toute façon, dans tous nos métiers, la confiance, évidemment, c'est un point très très important. Et donc il y a un peu ce premier temps de confiance qui doit s'établir entre les professionnels de Parage et les autres professionnels et les jeunes ou enfants accueillis. Et puis au fur et à mesure, c'est les ateliers qui reviennent semaine après semaine, avec des choses qui sont aussi très pragmatiques, hein, des jeux, des activités. Mais, et ça pour revenir à ta question précédente, la science au fur et à mesure commence à mettre des marqueurs pour ce qui fonctionne ou pas. Et quand ça fonctionne, il faut savoir de quoi on parle, sur quoi on travaille. Donc les jeunes savent très bien de quoi on parle, savent très bien sur quoi on travaille, que ça va les aider justement à dire non, qu'on va leur proposer quelque chose qu'ils jugent peut-être pas forcément très malin pour eux, pour gérer ses émotions, encore une fois, pour gérer son stress ou des choses comme ça. Et donc ils voient bien l'intérêt. Et au fur et à mesure, le travail se fait avec à partir de jeux, à partir de des fois des choses, des cartes qui sont imprimées par les professionnels elles-mêmes ou par des supports qui existent encore une fois, qui sont vendus dans le commerce ou autre, pour accéder à ces moments de développement des compétences psychosociales, pour déjà rien que par exemple que les jeunes arrivent à mieux se juger, à mieux s'auto-évaluer tout simplement. Malheureusement, quand peut-être qu'on le verra tout à l'heure, il y a eu des violences sexuelles ou autres violences, quand des jeunes ont été maltraités ou choses comme ça, la confiance en soi est très fortement entamé. Et donc, c'est tout un apprentissage d'arriver à se faire confiance à nouveau, d'arriver à mieux se juger, de montrer en pas ses compétences et d'être capable de dire non, par exemple, à une sollicitation qui serait par exemple « Mais si, viens fumer un joint, viens boire un verre, tu verras, et tout, et compagnie. » Voilà, c'est quelque chose qui permet d'être mieux armé. Et voilà, et ça, c'est au quotidien, nos professionnels sur le terrain, avec l'aide d'autres professionnels. Évidemment, il y a une mission aussi de transmission. C'est-à-dire que nous, à chaque fois, quelque chose, les professionnels apprennent. Il y a de la co-animation, et ce qui fait qu'ensuite, quand nos binômes, qui sont actuellement dans le Val-d'Oise et dans les Yvelines, mais aussi, je sais pas, en Indre-et-Loire, ou dans le Bas-Rhin, aussi à Mayotte, en Guyane, et puis ailleurs en Île-de-France, quand nos binômes vont arrêter en place les actions, normalement, les professionnels, on l'espère, auront retenu beaucoup d'éléments, et eux-mêmes pourront remettre en place des ateliers de développement des compétences psychosociales. Donc c'est peut-être la joie, le plaisir de l'engagement qui, on espère, contamine positivement tout le monde. Pour que ça soit effectivement des actions qui soient portées sur le long terme.
T'en parles avec beaucoup de passion, Sylvain, et je t'ai écouté très attentivement. C'est vrai que, d'abord, bravo pour à Mathilde et à d'autres qui font un travail extraordinaire sur le terrain, sous ta bienveillance, évidemment. C'est vrai que ce déploiement, il a cette efficacité redoutable, c'est-à-dire que ces professionnels forment d'autres professionnels qui eux-mêmes seront amenés à en former d'autres, et ainsi de suite. C'est magnifique parce qu'il y a une forme de diffusion du savoir en cascade comme ça, qui va toucher d'abord les professionnels. Et pour en avoir été témoin, c'est vrai que les professionnels sont souvent très démunis par rapport aux conduites à risque, notamment addictives, etc. Et c'est vrai que la recherche scientifique, tu parlais des marqueurs maintenant qui s'installent dans la recherche pour justement trier ce qui fonctionne le mieux, etc. Est-ce que tu ne crois pas que un jour les financeurs ne financeront que les dispositifs qui sont adossés, étayés par de la recherche scientifique?
C'est déjà le cas, presque. Le cas. Oui, tout à fait. Les ARS, les agents régionales de santé, maintenant, alors commencent à dire de manière de plus en plus officielle qu'elles ne financeront bientôt à terme que des actions validées par la science. Et donc, pour ça, par exemple, il y a un registre qui est tenu par la Haute Autorité de Santé et qui permet d'aller vérifier ou pas quelles sont les actions. Puis après, au fur et à mesure, évidemment, il y a des actions qui peuvent rentrer. Ça, c'est important. Et si je puis dire, c'est un point essentiel parce que, surtout actuellement, à ce moment-là, la science n'a pas forcément la meilleure presse en ce moment. On place beaucoup de place aux croyances et un peu moins à la science. Et malheureusement, c'est aussi pour ça qu'il y a vraiment à être engagé à faire ce travail, parce qu'il y a beaucoup de tabous encore. Moi, j'étais très étonné de voir à quel point ça reste tabou, et lié à la sexualité aussi, d'ailleurs, quand on parle de choses comme ça. Peut-être les professionnels sont un peu gênés parce qu'eux-mêmes, ils peuvent peut-être boire un coup, fumer des cigarettes. Et à quel point, parler de ça avec les jeunes, ça veut dire parler de soi sur soi-même, réfléchir. Alors, c'est peut-être plus facile de parler avec des jeunes de leur avenir. Il faut aller travailler parce qu'en soi-même on a un travail. Oui, il faut faire ceci, il faut faire cela en tant qu'adulte responsable. Et dès que ça va être sur des chemins où peut-être qu'on maîtrise un peu moins, on est moins sûr de soi, ou qu'on pense que c'est vraiment de la sphère privée, c'est beaucoup plus compliqué d'en parler. Donc c'est pour ça qu'effectivement, plus il y a de science, normalement, plus ça permet d'aborder les choses de manière objective, et donc se détacher d'une vision très très trop subjective, où on va remettre ses peurs, ses fantasmes, plein de choses comme ça, alors que là c'est pas la place. Parce qu'encore une fois, en face, on a des personnes vulnérables, on a des personnes malades éventuellement, et donc il faut pouvoir agir en fonction. On ne va pas demander à un médecin de s'établir ses diagnostics sur des croyances ou ses actions sur des croyances. À chaque fois, le médecin, on sait très bien qu'il va agir par rapport à des choses vérifiées scientifiquement, et personne ne pensera à remettre ça en cause. Dans nos métiers aussi, il y a cet axe-là, et il faut évidemment le défendre pour dépasser encore une fois les tabous, les stigmatisations et les mauvaises représentations.
Merci Sylvain, merci pour ce témoignage.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Nous revoilà pour avec toujours Sylvain, Charlotte et Suzanne pour poursuivre. Juste avant, on a écouté avec religieusement Sylvain qui nous expliquait et partageait avec nous son dispositif Parage qui est déployé à l'échelle nationale et qui est plein de promesses pour soutenir d'abord les professionnels qui travaillent aux côtés des jeunes et des familles, et puis aussi les jeunes eux-mêmes, puisque Sylvain l'a dit, Parage est étayé par de la recherche scientifique qui a fait la démonstration d'une certaine efficacité, et Sylvain a pu guider ses intervenants sur chacun des territoires pour le déployer. Merci à toi encore, Sylvain. Suzanne, tu es porte-parole de Mouv' Enfance, présidée par Arnaud Gallet. Mouv' Enfance est une association qui cherche aujourd'hui à mettre en lumière un certain nombre de difficultés qui ont été rencontrées et de violences qui ont été rencontrées par les membres de cette association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, déjà merci pour l'invitation. Mouv' Enfants, on est une association qui a pour objectif de lutter contre les violences sexuelles particulièrement faites aux enfants, mais de manière plus large, toutes les formes de violences faites aux enfants. On est une association effectivement qui a été créée par Arnaud Gallet, qui a aussi un ancien membre de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Et il en est parti après l'éviction du juge Édouard Durand à la suite du rapport qui a été rendu en novembre 2023. Donc un travail important qui a été mené en France.
C'est une éviction, t'es sûr ? Il m'avait semblé qu'il avait fini son mandat.
Non.
Non, c'était une éviction.
Oui.
D'accord.
Très clairement, oui.
Très bien.
Oui, il n'y a pas de doute là-dessus.
C'est important de le préciser.
Oui, c'est important. Et c'est important de préciser. Il a effectivement véritablement trop incarné la lutte contre la pédocriminalité.
C'est pas toi qui le dis, ça, qu'il a trop incarné.
Pas pour rien d'ailleurs qu'un certain nombre de membres en sont partis. Il n'y a pas que Arnaud Gallet qui en est parti, Muriel Salmona, Ernestine René, etc. Tout ça pour dire que, en tout cas, c'était une première en France, parce que l'inceste et les violences sexuelles, c'est quand même... Ça commence à être de plus en plus documenté. Avant ce rapport-là, il y a eu aussi le rapport de la CIAZ. Ça, c'est une commission aussi indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Qui ont permis de révéler quand même des crimes d'ampleur quand même très importante, massifs, littéralement. Voilà, 330 000 crimes pédocriminels en 70 ans. Dont 108 000 enfants au sein d'établissements privés sous contrat. Donc là, je pense que ça peut parler comme étant... on l'a vu dans l'actualité récemment avec les établissements comme Bétaram, les enfants de Riomont, Garaison, etc. Donc la CIVIS, elle arrive après. Ce qui a été inédit dans le travail qu'a réalisé les experts de la CIVIS, qui a réuni des professionnels dans le champ de la petite enfance, de la justice, du social, etc., c'est qu'elle s'appuie sur le savoir expérientiel de victimes et de survivants et de survivantes de violences sexuelles dans l'enfance, puisque effectivement la CIVIS a recueilli plus de 30 000 témoignages. Et donc ça a abouti à un rapport qui a été rendu en novembre 2023 et qui s'appuie sur 82 préconisations très concrètes à mettre en place pour pouvoir créer une culture de la protection des enfants et lutter contre la pédocriminalité. Malheureusement, aujourd'hui, il y a presque 2 ans après le rendu de ce rapport, aucune de ces préconisations n'est mise en place. Aucune.
Aucune. Aucune.
Aucune.
Alors, c'est juste question. Ces préconisations, elles sont destinées pour devenir des lois ou c'est quoi l'idée ? Ou est-ce que c'est plutôt des outils ou des préconisations qui sont finalement adressées aux acteurs du champ de la protection de l'enfance pour qu'ils s'en saisissent? C'est quoi l'idée, la finalité, si tu préfères, de ces préconisations?
Alors,
parce que tu dis, aucune n'est mise en place.
Non, aucune. Absolument
Mais
aucune.
Par qui? C'est
alors,
qui
alors déjà, pour commencer, on n'a pas de politique publique dédiée en France. On n'a pas de ministère dédié à l'enfance. Enfin, quand je dis pas ministère de plein exercice, hein, on n'en a pas. Dans ces préconisations, il y a plusieurs choses. Il y a tout un volet de prévention qui concerne effectivement l'ensemble des professionnels qui travaillent avec des enfants et des adolescents. Donc voilà, il y a tout un volet de prévention avec des outils qui ont été travaillés pour leur mettre à disposition. Il y a le volet de la formation des professionnels, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, les professionnels, moi je dirige les services sociaux et médico-sociaux, dans la formation initiale, que ce soit des travailleurs sociaux, des éducateurs, enfin etc. Enfin, et ben en fait, c'est pas intégré du tout. C'est pas du tout intégré. Donc on leur permet pas non plus d'avoir les éléments qui leur permettraient de pouvoir identifier les signaux pour identifier un enfant qui est victime d'inceste ou de violence sexuelle. Il y a ce qu'on appelle le questionnement systématique, ça c'est un peu le parallèle qu'on a mis en place, parce que je suis aussi investie sur les violences faites aux femmes depuis une quinzaine d'années, ce qu'on appelle le questionnement systématique. Voilà, donc il y a un certain nombre d'outils qui ont été travaillés, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des... ça touche aussi le volet de, effectivement, législatif, où, voilà, on réclame par une mesure qui est importante dans le rapport de la Civise, c'est l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Parce que voilà, tout ça, c'est quand même documenté. La plupart d'entre nous, survivantes et survivants, on a été atteints d'amnésie traumatique. Ça met beaucoup de temps, des années, voire des décennies pour sortir de l'amnésie, avec tout ce qui relève, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière, c'est-à-dire des psychotraumas. Effectivement, la plupart du temps, quand on arrive à en parler, on n'est pas forcément écouté, on n'est pas forcément cru, mais surtout, la plupart du temps aussi, souvent, on est ce qu'on appelle prescrit. C'est-à-dire que soit le pédocriminel, il est décédé, mais quand bien même il est encore vivant, on peut pas saisir la justice parce que on a ce qu'on appelle le délai de prescription. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, on considère que on parle quand même de crimes massifs, c'est-à-dire que c'est, faut avoir en tête que c'est 3 enfants par classe qui sont concernés, c'est plus de 60 000 enfants par an qui sont victimes d'inceste et de violences sexuelles. Enfin, ce sont pas de petits faits. Et du coup, cette prescription, en plus, elle participe à la culture de l'impunité, parce que le corollaire, en plus de cela, c'est que malheureusement, en plus, en France, c'est-à-dire que même quand on saisit la justice, c'est un parcours du combattant. Voilà, qui génère aussi de la violence, ça dure des années et la plupart du temps les pédocriminels ne sont pas condamnés. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous, on travaille et on a demandé un certain nombre que des mesures soient prises. En cas d'inceste, il faut avoir en tête que c'est moins d'un pour cent de condamnation en France.
Moins d'un pour cent.
Moins de 1%.
Comment tu l'expliques, ça?
C'est la... Enfin, faut le dire franchement, on est dans la culture de la pédocriminalité en France. Enfin, faut oser le dire de manière très claire. On est là-dedans. C'est tout un système.
C'est définitif. C'est une sanction quand même.
Ça devrait pas être définitif. C'est-à-dire que là où le monde est à l'envers, c'est-à-dire que on devrait protéger nos enfants et leur permettre de Enfin, c'est quand même l'avenir. C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on massacre sans problème tous les jours des gamins. Avec des conséquences à vie, et il ne se passe rien. On n'a pas de politique publique dédiée. Les professionnels sont la plupart du temps démunis. Enfin,
est-ce que c'est aux politiques de saisir de ça? Alors, je vais te dire, ça a l'air très, très provocateur ce que je dis, mais la réponse, elle est évidemment oui, que les politiques doivent pouvoir... Mais je vais m'expliquer. Tu parlais des préconisations sur la Civise. Il y a eu 100 préconisations sur la Civise 1, 100, 110... 82. Voilà. Moi, j'avais en tête 100 préco dans le premier rapport. Voilà. Mais s'il y a bien une préco qui me semble à retenir et que les associations se sont saisies, d'ailleurs, une en particulier, c'est Groupe SOS Jeunesse, c'est celle du questionnement systématique. Ce questionnement systématique, on peut quand même gager qu'ils puissent révéler quand même un certain nombre de choses qui permettent aussi, avec des formations accompagnées, c'est le cas pour SOS Jeunesse, avec des formations accompagnées, d'espérer en tout cas mettre le doigt sur des situations qui auraient échappé par ailleurs. C'est aussi les formations, tu parlais des formations des professionnels. Il y a aussi un fort engagement des associations sur la formation des professionnels, sur la vie sexuelle, affective, etc. C'est très marqué ces derniers temps. Ce qu'on peut regretter, peut-être, c'est cette prise de conscience aujourd'hui collective qui est bien tardive quand même. La protection de l'enfance, c'est depuis des années. Si je reprends juste la CID, et c'est bientôt l'anniversaire de la CID, le 20 novembre, cette CID-là, elle date de... Elle a quel âge maintenant ? C'est plus de 80 ans, il me semble, de mémoire. C'est terrible que de voir que les enfants restent encore des victimes avec une chape de plomb qui a beaucoup de mal à se fissurer. Et ça, c'est un constat qui est une vraie horreur. Ce questionnement systématique est, je crois, la pierre angulaire en fait des travaux. Pour ma part, je te donne mon opinion, mais pour ma part, c'est la pierre angulaire de ces travaux. C'est là, on est ressorti de ça avec la CIVIS, avec une préconisation qui finalement est assez simple. Poser la question en fait aux enfants, mais on se rend compte en fait que cette question-là vient interroger surtout nos propres fuites, notre propre faiblesse. Que d'interroger directement sur ces sujets-là, parce que peut-être que finalement, au fond, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le voir. Voilà. Parle-nous de toi, parce que tu t'es engagé chez Move Enfance.
Oui.
Sur un sujet qui fait pas rêver, disons-le, hein, très clairement, ça fait pas rêver de ce sujet. Y baigner tous les jours, etc., entendre des situations aussi gravissimes tous les jours, ça ne doit pas être simple. Ça doit être même très difficile. Parce que tu dois être témoin en fait de situations. Voilà, moi j'étais assez admiratif de la CIVIS. Pourquoi ? Parce que tous les jours ils ont reçu des témoins qui ne manquaient pas de détails, parce qu'il fallait aussi se délester de cette douleur, et qui ne manquaient pas de détails. Et tous les jours ils ont présenté des situations extrêmement difficiles. Et la CIVIS a été d'une écoute, d'une bienveillance remarquable. Vous, aujourd'hui, avec Arnaud Gallet, toi, Suzanne, vous en êtes témoin, mais j'ai envie de comprendre d'où vient cet engagement.
Move Enfant, on est une association effectivement qui a presque 2 ans maintenant. On est essentiellement en fait des survivantes et des survivants de violences sexuelles dans l'enfance. Voilà, on a après des personnes qui nous soutiennent, mais l'essentiel des adhérents sont en fait des survivants et survivants. Et moi, mon histoire, elle est tristement banale. J'ai été victime de 2 incestes dans l'enfance pendant des années. Avec le corollaire de ce qui, parce que souvent après on a ce qu'on appelle le continuum des violences. Ça aussi, c'est assez banal. Moi, je suis déjà engagée professionnellement, c'est-à-dire que dans le cadre de direction d'établissements sociaux et médico-sociaux. Mais quand il y a eu l'éviction du juge Edouard Durand, moi, ça m'a révélé énormément de traumas qui ont été extrêmement difficiles à gérer. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Moi, je me rappellerai toujours à la maison de la radio, quand j'en suis sortie après la présentation du rapport, j'ai fait 2 malaises dans le métro, parce que je savais en fait que la CIVIS était en train d'être massacrée. Et que la promesse que le président de la République nous avait faite en disant vous ne serez plus jamais seul, que c'est pas vrai. Et je l'ai compris à ce moment-là. Et donc je me suis dit il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui en France, ce combat-là, il repose sur nous, essentiellement sur nous, les survivantes et les survivants. Et donc c'est pour ça que je me suis engagée aux côtés d'Arnaud Gallet et avec d'autres, parce qu'à Move Enfant, on ne fait pas qu'en parler. Ce qui est important pour nous, c'est ce que l'État ne fait pas à l'échelle nationale. Nous, on va sur les territoires, en métropole, mais aussi dans les Outre-mer. Là, Arnaud était au mois d'août dernier en Guyane. Il est retourné, enfin, etc. Et en fait, nous, ce qui est important, c'est d'agir pour rassembler les professionnels, mais aussi la population, c'est important, et des survivants pour faire en sorte que on infuse une culture de la protection et qu'on mette en place des actions concrètes sur les territoires en prenant en compte les spécificités de chaque territoire, parce que effectivement les problématiques vont pas être les mêmes voilà dans un milieu rural ou dans le milieu urbain ou en Guyane ou à la Réunion, etc. Et donc c'est tout ce travail là qu'on fait. On en est à plus de 50 ce qu'on appelle nous la caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et donc voilà, on passe notre temps à voilà à chercher des subventions pour mettre en place cette caravane, la proposer avec les professionnels et en allant aussi taper à la porte des institutions, les collectivités territoriales, l'ARS, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce qui nous anime. Et puis l'autre partie en fait aussi important, on fait des plaidoyers, c'est-à-dire qu'on va voir les parlementaires, voilà, on saisit le gouvernement. Mais voilà, aujourd'hui, très franchement, c'est pas une priorité. Voilà, on nous dit, bah, c'est bien ce que vous faites, bravo. Il ne se passe rien. On a été reçu à deux reprises là avant l'été, parce qu'on a fait des actions, on fait des actions choc aussi. Donc, on a fait des actions qui ont marqué les esprits pour soutenir les victimes de Betaram et d'autres établissements. Voilà, ça, on a été reçu à l'Élysée à Matignon. Mais écoutez, super, il se passe rien, en fait, rien.
L'Élysée, tu disais, le président, vous savez, vous serez jamais seul, c'est ça, c'est le président de la République qui vous dit ça. J'ai envie de te poser une question un peu provocatrice. Ça m'arrive. Mais est-ce que c'est à l'État, finalement, de gérer ces questions-là?
Ça l'a souhaité, évidemment, que ça l'a souhaité tout entière.
Le sens de ma question, c'est est-ce que c'est à l'État de gérer ça? Le sens de ma question, c'est est-ce qu'on va trouver la même flamme que je vois dans tes yeux là quand tu en parles, du côté des agents de l'État qui auraient à gérer ces questions-là?
En fait, il faut avoir... Je vois très bien. Mais évidemment, un État qui ne protège pas ses enfants, là franchement, et c'est le cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système. C'est-à-dire que dans les violences sexuelles faites aux enfants, 80% c'est de l'inceste. C'est-à-dire que ce sont au sein des familles. Donc là, on touche des tabous, etc. Et tout est fait pour silencier la parole des enfants, alors que, en réalité, les enfants, ils parlent. Les enfants parlent. C'est juste que on ne les écoute pas, et pire que ça, les adultes silencient la parole des enfants. Évidemment que ça a la société entière de réagir, sauf que comment on fait quand 160 000 enfants par an au bas mot, dont 80% ce sont au sein des familles. Enfin, on ne peut pas demander, 3 enfants par classe, on ne peut pas demander aux familles, vous voyez, on voit très bien ce que ça donne. Moi, je le vois dans ma propre famille. Parce que depuis que je parle, on me tourne le dos, évidemment qu'on m'a traité de menteuse, ça c'est un classique, évidemment. Voilà, moi, ça a fait tout exploser. Parce que j'ai osé parler, parce que je jette le discrédit et la honte sur ma famille. Alors, vous voyez, tu vois ce que je veux dire.
Je vois.
Alors, ça devrait être l'inverse. Mmh. Et puis après, il y a quand même là où on attend des mesures de l'État, c'est que sur le volet législatif, c'est pas la société qui peut agir. Donc voilà. Évidemment que c'est à l'État et à la société mais bon, on le voit aujourd'hui quand on va dans la rue pour on fait un rassemblement tous les ans au mois de novembre, personne.
Sur les violences sexuelles faites aux enfants, j'ai 9,7 milliards d'euros par an. C'est ce que ça coûte? Ça a été chiffré par la CIVIS?
Ça a été chiffré, exactement.
Ça devrait attirer l'attention. On parle de milliards, 9,7 milliards d'euros. Oui. C'est coût direct. Hein. Voilà. C'est quand même, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Parce que je pense que la CIVIS, son intention en cherchant à chiffrer, c'était aussi d'essayer d'alerter sur les moyens des associations pour traiter ces questions-là. Qui, évidemment, si les associations sont financées pour traiter ces questions-là, eh bien, réduirait ce coût qui est visiblement énorme pour la nation.
Oui, parce que c'est un enjeu de santé publique, de même de sécurité publique. Pourquoi? Parce que ça génère forcément des traumas, un certain nombre de problèmes de santé. Ça peut aussi, la plupart d'entre nous, on a des addictions. Voilà, faut le dire les choses très clairement.
Les addictions, c'est la conséquence.
Exactement. des problèmes alimentaires, enfin voilà, et il n'y a pas en fait de prise en charge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as les moyens de te payer tes séances de psy, psychologue et des fois et ou psychiatre, déjà c'est pas mal, sachant qu'ils ne sont pas très nombreux à être formés sur ces sujets-là aussi, moi je le dis, hein, quand j'ai commencé à parler, je suis tombée sur une psy qui m'a dit, mais enfin quand même, à 4 ans on n'a pas de souvenirs, en gros je mentais quoi. Super. Donc ça a un enjeu effectivement de santé publique et je parle même pas en fait de une victime sur deux a fait une tentative de suicide. Sur deux.
Ouais. J'avais en tête ce chiffre-là qui est terrible, hein, une victime sur deux. Ça vient interroger la question des psychotraumas. Tout à l'heure, c'était évoqué, je crois, par Sylvain et Charlotte. Charlotte nous parlera aussi parce que je pense que ton témoignage fait écho aussi à sa pièce de théâtre. On y reviendra tout à l'heure. Mais les psychotraumas aujourd'hui, comment on les traite ? Alors, on l'a dit tout à l'heure, d'abord en identifiant très tôt,
le plus tôt possible,
les enfants victimes de ces violences sexuelles et de traiter. Et la question de traiter ces enfants.
Qui est une prise en charge.
Comment on fait ?
Bah là, effectivement, il faut des moyens. Mais c'est une volonté, hein, c'est une question de volonté, c'est une volonté politique.
Il faut des moyens parce que il n'y a pas de structure aujourd'hui qui ont ce savoir-faire.
Il y en a très peu. Il y en a très très peu.
Et au regard des chiffres qui ne pourraient pas absorber de toute façon.
Non, ça c'est impossible, clairement.
C'est impossible.
Oui.
Donc ils font. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans sa voiture ou dans son avion, M. Emmanuel Macron, le président de la République, t'entend, nous écoute.
Je l'ai déjà interpellé publiquement, notre président de la République, donc je le fais à nouveau, M. Emmanuel Macron. Vous avez fait une promesse.
Il faut la tenir.
Il faut la tenir. Vous le devez aux enfants d'hier, à celles et ceux qui nous ont quittés et qui continuent de nous quitter. Et surtout aux enfants d'aujourd'hui et de demain. Voilà, ça devrait être une priorité nationale dans les actes et pas uniquement dans les mots.
Mouv' Enfants est une association qui évolue au quotidien à travers des acteurs qui sont engagés. Alors, tu le disais tout à l'heure, hein, vous manquez de moyens aussi pour pouvoir avoir une activité un peu plus upgradée sur le plan de l'action, etc. Mais je vous ai vu sur les réseaux sociaux, souvent dans la presse, venir aussi pointer du doigt, dénoncer le silence, dénoncer des violences faites aux enfants. On vous voit très souvent avec des banderoles venir vous présenter devant là une école, ici une institution pour dire qu'il se passe des choses dans les murs. Est-ce que c'est votre carte d'identité, c'est comme ça que vous voulez être aujourd'hui, vos enfants, c'est dénoncer, etc.
C'est pas que dénoncer. En fait, ces actions qui sont des actions coup de poing, faut le dire très clairement, parce qu'effectivement, on fait une scène de crime, donc c'est vrai que visuellement, ça attire, et c'est le but de toute façon. Mais on vient aussi en soutien aux victimes. C'est très important pour nous, ça, vraiment très très important. Les actions que l'on mène, et on compte pas notre temps, on va partout où on peut avec nos propres moyens. Mais voilà, c'est pour déjà être en soutien aux victimes, parce que nous, on sait ce que c'est d'être seul, en fait. On le sait. Donc ça, c'est un premier point. Et effectivement, on vient aussi en fait, questionner les responsabilités, qu'elles soient locales ou nationales, et parfois les deux. Donc, parce que voilà, on a très souvent, on a les médias effectivement qui nous suivent, et on continuera autant qu'il le faudra, et on tapera plus fort s'il le faut, parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a que ça qui permet qu'on en parle. C'est triste, mais voilà. C'est pas de faire des rendez-vous, des réunions. On en fait plein, des réunions. On passe notre temps à ça aussi.
Je sais pas si c'est triste, c'est une méthode.
En tout cas, voilà, c'est notre méthode, c'est vrai, Mouv' Enfants.
C'est une méthode, elle est musclée.
On a obtenu des victoires, quand même. On a obtenu des victoires.
Quelles victoires ?
Par exemple, quand il y a eu les révélations sur l'affaire de l'abbé Pierre en juillet 2024, deux jours après, on s'est rendu au centre, lieu de mémoire, à Esteville, pour réclamer la fermeture et demander à ce que ce lieu soit transformé en un lieu de mémoire et de ressources aussi localement. On n'a pas lâché et le centre a fermé. Voilà. Bon, il n'a pas été transformé en lieu mémoriel, mais voilà, c'est une victoire, parmi d'autres. Ou là, récemment, par exemple, sur Bastien Vivès, qui fait des BD où il dit très clairement l'inceste, ça m'excite. Voilà, des ouvrages qui sont quand même pour la jeunesse, pour les jeunes. On a interpellé un certain nombre de maires pour leur demander qu'ils les retirent. Il a un procès d'ailleurs en cours. Qui retire en fait ces BD où il y a des planches qui sont des dessins qui sont très très explicites, hein, mais vraiment.
Il a écrit ça dans une BD.
Bien sûr.
D'accord.
Il l'a dit.
À destination des enfants.
Exactement. Il l'a dit en fait, l'inceste, ça m'excite.
Tu peux reparler de la BD que tout le monde sache.
J'ai plus en tête le nom. Je suis désolée, mais je pourrais donner la référence après. Donc voilà. Donc et là, on a un maire en l'occurrence qui nous a répondu et qui a fait retirer les ouvrages. On va continuer avec d'autres. Donc voilà, comme quoi, voilà, il y a quand même des choses qui avancent, même si c'est petit. Mais ça fait partie des victoires qu'on obtient quand on qu'on lâche pas quoi.
Merci beaucoup Suzanne pour ce témoignage qui est très fort, très puissant. Suzanne Fugier qui est porte-parole chez Move Enfance.
Merci.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Nous revoilà sur les voies de l'engagement sur IDFM 98FM avec Sylvain, Charlotte et Suzanne Move Enfance. Qui nous rejoint. Voilà, Move Enfant.
Oui.
Voilà, j'ai dit Move Enfant. Voilà, c'est Move Enfant. D'ailleurs, rapidement, avant de passer la parole à Charlotte, comment on vous contacte ? Comment on contacte Move Enfant ?
Ah, c'est très facile. On a un site internet, Move Enfant, M-O-U-V, il n'y a pas de E. Enfant au pluriel.fr. Voilà, donc on a un site internet et puis on est présent et très actif sur Instagram, Facebook. Voilà, donc on peut aussi nous contacter par ce biais-là.
Bravo, cette association.
Et rejoignez-nous, vous pouvez adhérer, vous n'avez pas besoin d'avoir été victime pour adhérer à Move Enfant. Vous pouvez aussi faire un don à l'association si vous le souhaitez. Merci.
Oui, de vrais combats, une association qui cherche aussi à impacter aussi la réalité sur ces sujets-là, etc. Vous avez besoin aussi de fonds, c'est important. Bravo pour le combat qui est indispensable. Indispensable vu la hauteur dans laquelle les familles sont touchées aujourd'hui. Et ce qui est terrible, c'est de savoir que ça a même marqué, hein, tu me dis Suzanne si je me trompe, mais dans une classe de 30 élèves en France, combien d'enfants ?
3 enfants par classe.
3 enfants par classe, c'est terrible. Ce chiffre-là m'avait bouleversé. Merci Suzanne. Merci. Charlotte, tu as écrit une pièce de théâtre ?
Entre autres.
Alors pour rappel, je l'ai dit en début d'émission, mais Charlotte a travaillé comme directrice d'établissement au pénal.
Placement
judiciaire, elle a accompagné de nombreux jeunes, de nombreux professionnels. Un exercice et un métier difficile que celui d'éducateur, de directeur, en particulier directeur. Voilà, c'est... Alors, je ne les mets pas tous les deux voilà, sur le même plan. Je suis moi-même éducateur de métier et directeur d'établissement. Mais c'est vrai que voilà, les éducateurs ont besoin de directeurs, les directeurs ont besoin d'éducateurs. Enfin, tout ça, c'est articulé. Mais l'engagement est le même. Oui. L'engagement est le même, la source est la même. Charlotte, parle-nous de toi d'abord. Parce que, oui, je vais te dire pourquoi.
Oui.
Parce que, pourquoi parler de toi ? Parce que cette pièce de théâtre que tu as écrite, elle te concerne aussi un peu. Il y a beaucoup d'intimité te concernant, etc. Donc c'est aussi intéressant, je pense, ça me paraît logique et cohérent de comprendre un peu ton parcours de vie et ce qui t'a amené à la comédie, ce qui t'a amené à l'écriture et ce lien avec ton métier et ce qu'on a évoqué juste avant.
Ok, tout ça de façon synthétique, j'imagine.
Non, prends ton temps.
Non, ça va. Ok, oui. Je peux prendre mon temps. Alors, je sais pas tellement par où commencer. Ben, si, peut-être. Moi, j'étais persuadée en commençant ma carrière dans la protection de l'enfance que j'étais une ovni du social. J'entendais partout. Non, mais on tombe pas dans le social par hasard. Moi, je me disais, putain, moi, j'ai l'impression vraiment d'être là.
Alors, cette phrase, pour beaucoup de professionnels nous écoutent sur cette émission.
Oui.
Et cette phrase, je l'entends tous les jours.
Tous les jours.
Et on n'arrive pas sur... Alors, elle est étayée par rien du tout.
Elle n'est étayée par rien, si ce n'est quand même
par... Ça n'a pas été démontré, quoi.
Non, j'imagine que ça n'a pas été démontré parce que... Parce que oui, parce que sur quoi ça reposerait Mais il n'empêche que... en rencontrant les professionnels, en étant auprès d'eux, etc. Il y a quand même des états d'esprit, il y a quand même des visions, il y a quand même des parcours de vie qui, à un moment donné, confrontent tellement au sensible et à notre intériorité et supposent tellement, en fait, de faire un travail de fond pour nous-mêmes dépasser les traumas, qu'en fait, c'est comme si nos cœurs, du coup, venaient rencontrer immédiatement les autres cœurs, et qu'une fois qu'on a touché à ça, il n'y a pas autre chose qui fait plus sens dans la vie, quoi. Un peu, je ne sais pas comment dire, mais c'est-à-dire, j'appelle ça souvent, moi, cette ouverture du cœur, cette capacité à d'abord voir le sien quand on a des parcours un peu difficile pour pouvoir après se greffer à celui des autres. Et je sais pas pourquoi, mais je me raconte que en fonction de nos enjeux du quotidien ou de notre culture ou de notre éducation, on n'a pas tous cette appétence pour être au service d'un autre que nous-mêmes ou de grands enjeux qui structurent notre société, à savoir économique en priorité. Donc voilà, oui, je ne pense pas que ce soit étayé, mais pour autant, je pense que ce sont les parcours de vie qui amènent à ce qu'on puisse poser ça dans le social.
C'est moi qui vais te dire le contraire.
Ouais. et je crois personne autour de cette table d'ailleurs.
Ouais.
Donc voilà. Donc moi j'ai commencé très jeune, hein, à la sortie de mes études, même pas diplômée de mon master, et j'ai eu une proposition de poste dans le 93, et j'étais tellement heureuse parce que c'était le territoire le plus sinistré et que moi je voulais être sur le territoire le plus sinistré parce que je voulais être au cœur de la délinquance pure. Et pouvoir me rapprocher de ces jeunes dont j'ai toujours été absolument persuadée qu'ils avaient des potentiels.
Tu as fait une école d'administration, c'est ça ?
Non, pas du tout. J'ai fait du droit, que j'ai galéré de ouf parce que c'était pas du tout mon milieu, pas du tout ma culture. Enfin voilà. Donc j'ai redoublé même des années de droit. Et en fait, justement, face aux échecs, on va dire, enfin face à l'échec, on va dire, universitaire, j'ai dû vraiment me poser la question de « Ok, si je reste là, c'est pourquoi et qu'est-ce que je peux en faire de mieux ?» Parce que pas du tout légitime à l'âge que j'avais de me prétendre magistrate. Et pour autant, avocat, il y avait un truc où je me disais « Ah là là !» Quand même, j'aurais pas le... ce sera que... Alors, j'adorais l'éloquence et tout, mais je me disais toujours que j'aurais pas la décision finale. Il y avait quelque chose qui n'était pas OK avec ça. Donc, voilà. Et donc, je me suis dit, OK, moi, j'adore les enfants. J'adore le pénal.
Les délinquants.
J'adore la délinquance. J'ai grandi avec la délinquance, notamment, oui, c'est ça, le monde des forains, des gitans.
Ils sont pas tous délinquants.
Non, pas tous, mais j'ai vu quand même des choses.
Ce sont des gens très bien, les forains.
Des plus petits âges. Non, mais c'est même pas de la. Je sais pas si dans leur code et dans leur milieu, c'est pas de la délinquance, c'est de l'adaptation, de la diversion, c'est des outils de survie. Donc. Je veux dire, on n'est pas. Alors, c'est nous qui avons mis ces termes-là, en fait, qui avons structuré le cadre de la société.
Les clichés, mais... les stéréotypes.
Oui, et puis qui sommes obligés d'avoir un cadre référentiel pour faire société, parce que sinon, on n'en aurait pas. Donc, effectivement, oui, du vol, c'est un acte de délinquance. Voilà. Bref, et donc, du coup, j'ai commencé ma carrière dans le 93, avec deux établissements de placement judiciaire. Je suis arrivée, donc les professionnels étaient déjà hyper intéressants, hein, mais étaient déjà en fait des rescapés de trauma, puisque la structure en elle-même, celle que j'avais à Aubervilliers, avait un précédent traumatique très très important où des professionnels, donc des éducateurs, avaient été séquestrés vraiment dans les locaux par des jeunes pendant plusieurs, je me souviens plus si plusieurs jours ou plusieurs heures, mais j'ose espérer que ce ne soit qu'à l'échelle l'échelle d'une journée, mais qui en fait étaient restés quand même dans...
Des professionnels.
Oui, des professionnels.
Des éducateurs.
Oui, oui, oui. On était vraiment sur un renversement du
peut-être,
coup
de... Peut-être s'arrêter là deux secondes, ouais. Parce que pour les auditeurs qui ne nous entendent pas, qui peuvent se dire, mais c'est curieux quand même, des professionnels qui se font séquestrer, oui, qu'est-ce que ça interroge, etc. Peut-être rappeler simplement que... Aujourd'hui, le métier d'éducateur est un métier qui est indispensable. Des travailleurs sociaux en général, assistante sociale, CESF, AMP pour le secteur du handicap, etc. Ce sont des métiers qui nécessitent un gros capital d'altruisme, de volonté, d'engagement. Et on se rend compte en fait que ces métiers-là sont très très peu envisagés par les sortants de bac,
oui.
Parce que c'est des métiers qui ne sont pas très bien payés, c'est une évidence. Mais c'est vrai que ces dernières années avec le Ségur, on a beaucoup parlé des salaires, mais on a très peu du coup parlé des bénéfices finalement à faire ce métier. Cette transformation, cette mutation psychique qui s'opère par l'instruction, se documenter, s'intéresser à des sujets de manière très précise. Tout à l'heure, Sylvain évoquait les données probantes. Eh bien, c'est passionnant que d'aller explorer la recherche scientifique sur des sujets, la sociologie, l'anthropologie, enfin, faire ce tour,
oui,
du monde comme ça,
oui.
Du métier de l'humain, à la fois universitaire, mais aussi sur le terrain, la pratique, cet enseignement autour de l'expérientiel qui est partagé par des professionnels de terrain, c'est passionnant et ça transforme un individu. Et ça, quand un auditeur, sûrement en tant que des professionnels, ont été enfermés, eh bien, ça vient toucher quand même du doigt les limites aussi du système.
Oui, complètement.
Et ça vient aussi éclairer sur le niveau des problématiques quand même qu'il faut,
oui,
qu'il faut aller traiter.
Absolument.
Et que ces choses peuvent arriver si loin.
Mais ça montre que c'est un métier humain et, oui, que avant qu'il soit remplacé par une intelligence artificielle, il y a un peu de chemin.
Oui,
c'est un métier d'avenir.
Voilà, un métier d'avenir,
ah bah oui,
tout,
oui,
à fait, Sylvain. Et c'est pas l'intelligence artificielle qui va inventer,
voilà,
l'éducateur, qui va le faire à notre place. C'est certain. Et ça, j'espère que c'est entendu par ceux qui financent, etc. Parce que honnêtement, on a des besoins. Tout à l'heure, Suzanne l'a dit avec beaucoup de vérité, et parce qu'elle le partage et parce qu'elle le vit tous les jours. Mais on a des besoins qui sont importants aujourd'hui en termes de travailleurs sociaux, de gens engagés, militants, des bénévoles aussi. Alors le bénévolat, on le sait aussi, il y en a de moins en moins qui s'y engagent. Même le mécénat, vous savez, d'entreprise, les auditeurs doivent en avoir entendu parler dans les grosses boîtes, souvent ça existe. Même le mécénat d'entreprise n'est pas tellement sollicité par les professionnels en entreprise. Et ça, j'ai pu le vérifier, et c'est assez frappant. Voilà. Excuse-moi de t'avoir
coupé.
Non,
mais il n'y a pas aucune difficulté. C'était nécessaire.
T'étais à l'université,
j'ai galéré, j'ai galéré surtout.
Voilà, t'as galéré.
Parce que je viens de...
T'es allée en Seine-Saint-Denis, et puis tu te retrouves...
J'ai adoré.
À un moment donné, t'as adoré.
Ouais.
Tu t'es repérée par le groupe SOS.
Oui, alors non.
Je suis sûr que t'as été repérée par le même Maxime Zenou.
Ouais, alors,
Maxime Zenou, pour ceux qui ne le connaissent pas, il doit nous entendre sûrement, mais c'est le directeur général au groupe SOS Jeunesse, directeur général qui a en charge aujourd'hui les Outre-mer, il me semble, hein, qui a en charge des Outre-mer, et qui est un chasseur de talents. Il les trouve assez facilement. Voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil.
Oui, clin d'œil à Maxime. Oui, donc j'ai fait le 93. Après, on m'a proposé un poste en milieu ouvert pour venir compléter mes compétences en placement et avoir une vision globale, donc toujours pour le ministère, donc secteur public, dans le Nord, où j'ai été confrontée à bien d'autres problématiques. Et de là, effectivement, le groupe SOS, à l'époque, c'était le chargé de mission, qui doit toujours être le même,
Geoffroy
auprès Geoffroy Cachemaret. Marek, exactement, pour lequel je travaillais avec son épouse, qui avait le placement, l'établissement de placement juste à côté de moi, et qui l'a appelé en lui disant j'ai une professionnelle, il faut absolument que tu la rencontres, et donc merci pour moi, parce que pour le coup j'étais tellement noyée dans toutes les problématiques que je me disais mais mon Dieu, mais je suis nulle, c'est terrible. Et en fait donc du coup oui, ils m'ont proposé, j'ai rencontré donc le DG de jeunesse en charge du pôle pénal. J'ai passé un très très
Philippe
long entretien.
Comme Philippe Comartin. On les aura tous nommés.
Donc j'ai passé un très très long entretien en plein été, et j'ai été prise du coup sur la direction du fil d'Ariane et de la passerelle en 2018, et j'avais du coup 27 ans, et j'ai travaillé 5 ans pour eux, et donc en tout j'ai eu une carrière de 8 ans et demi dans la protection de l'enfance sous main de justice exclusivement, avec quelques petites prises en charge à l'aide sociale à l'enfance. Et donc ces 6 établissements que j'ai eu, 6 services et la structure juridique, c'est les établissements, recrutée sur des établissements vraiment en crise. Je pense que c'était un peu d'ailleurs probablement le leitmotiv des recruteurs, c'est-à-dire que vraiment j'arrivais, c'était le feu, et j'avais une mission, c'était de d'éteindre le feu. Voilà. Et c'est rigolo parce que après coup, quand je fais tout ce lien entre mon parcours perso et en fait la gestion des structures qu'on m'a donné à des âges mais fous, parce que 24 ans pour le 93 et tout, tout est lié. C'est-à-dire que j'avais tellement moi-même, et je le savais pas, mais j'avais tellement dépassé des choses déjà par mon parcours perso, dans toutes ces années-là, avec une abnégation au travail, avec un isolement aussi social très fort, donc du coup qui est remplacé et qui est suppléé par justement une activité démesurée dans le travail, quel qu'il soit. Déjà le travail, la course à pied, enfin sportive, mais à outrance. Moi j'ai fait énormément, et encore aujourd'hui j'ai besoin de courir, mais si je pouvais tous les jours, je le ferais, parce que j'ai besoin de me vider, j'ai besoin de... C'est mes plus grandes sources, la course à pied, ma plus grande source d'inspiration. C'est là où j'élabore le plus, c'est là où je comprends le plus. Donc c'est vraiment un outil de survie individuelle que j'ai commencé comme ça, comme une lumière. Et en fait, toutes ces périodes-là où j'ai fait des choses sans le savoir pourquoi je les faisais, et qui, je pense, sont des périodes, en fait, des années de déni et des années d'adaptation, mais qui en fait des adaptations donc individuelles et structurelles, mais qui pendant qu'on les fait en fait on s'en rend pas compte, mais nous isole énormément de plein de choses. C'est-à-dire que moi j'ai jamais et c'est pas pour rien non plus que j'ai visé des métiers qui sont seuls de direction, où en fait on est quand même assez isolé et on prend une charge d'en dessous, du dessus, mais on est sûr qu'on reste nous-mêmes.
Alors,
avec nous-mêmes.
Tu parles d'éteindre le feu, mais il y a une flamme à l'intérieur de toi.
Ah bah oui, qui s'éteint pas.
Continue à brûler.
C'est le grand paradoxe.
Et qui t'a amené à écrire cette pièce de théâtre. Alors
oui.
Est-ce que tu peux nous parler
oui.
de cette pièce de théâtre ?
Donc j'y ai arrivé, mais donc du coup sur les 3 dernières années. Pourquoi je parlais d'établissement en feu? C'est parce que du coup, à un moment donné, je me suis rendu compte que de ma place de direction, moi, ce qui m'animait le plus, c'était l'impact auprès des jeunes, et que il y avait un maillon manquant, parce que en fait, une direction qui impose des choses à ses équipes, ça n'a jamais fonctionné, et qu'à un moment donné, avoir plus la flamme qu'eux-mêmes, c'était pas possible. Et donc j'ai commencé à envisager une façon différente d'avoir de l'impact auprès de ces jeunes. Et donc je faisais du théâtre d'impro depuis quelques années, notamment parce que je faisais ce métier et que je me disais j'ai tellement pas le temps d'apprendre des textes qu'il faut que je fasse quelque chose qui ne demande pas d'apprentissage. Et donc je faisais de l'impro, et tout de suite j'ai vu les bénéfices du théâtre d'improvisation dans le parcours de ces jeunes qui sont décrocheurs scolaires, qui ont pas eu, qui sont évidemment pas nés avec les mêmes chances d'accession à l'éducation supérieure, etc. je ne sais même pas si ça se dit d'accession, mais en tout cas d'accès à l'éducation supérieure. Et je voulais du coup pouvoir développer et déployer le théâtre d'impro que j'imaginais en plus comme une pédagogie alternative à part entière auprès des jeunes. Et donc là-dedans, j'ai commencé à me dire, pourquoi pas, essayer d'importer le théâtre d'impro, etc. Et au même moment, et donc c'est pour ça qu'il y a un peu des trucs comme ça de vie, des grands tournants, au même moment, j'avais un projet de parentalité avec mon conjoint, l'homme qui a marqué ma vie pour toute ma vie. Et en fait, on n'y arrivait pas. Et moi, très vite, pareil, tout ça de façon très, très inconsciente et tout, je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait un problème. Déjà, je savais qu'il y avait un problème. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'en fait, moi, le jour où je me suis dit « je veux être maman », il fallait qu'il arrive le soir et il fallait que presque les 9 mois de grossesse se passent dans la nuit, parce que toute l'appréhension de ce qu'allait supposer une grossesse, justement, de transformation, de rapport au corps, de peut-être limitation de ma discipline sportive, et donc, pourquoi pas, de ce que ça allait engendrer pour moi de découverte, peut-être dans une forme de folie ou dans une forme de dépression que je cachais. Tout ça m'apparaissait une montagne. Et donc le jour où je voulais, il fallait qu'il soit là, ce qui est impossible. Et la vie nous l'a bien rappelé, puisque du coup, on a passé plusieurs mois d'essai. Mais j'ai pas attendu les un an un peu conventionnel. Pour démarcher, et au bout de 8 mois d'essai, j'ai pris les choses en main et j'ai appelé des services pour prendre rendez-vous avec des spécialistes. Et de là, du coup, ce qu'on appelle le parcours du combattant a démarré. Donc, quasiment un an d'essai, rentré dans le process médical où il nous donne donc une série, une batterie d'examens à faire qui nous redonne un rendez-vous. Alors déjà, il y a à peu près 9 mois d'attente entre le moment où on appelle et le moment où on a le rendez-vous, le premier rendez-vous, qui lui-même donne du coup un autre rendez-vous, parce qu'entre le premier et le deuxième rendez-vous, il faut faire tous les examens de tout ce qu'on n'imagine pas, pour voir si en fait il y a effectivement un problème sur la fertilité ou si c'est autre chose.
On va rester sur ce premier rendez-vous et on va marquer une pause, on maintient le suspense, tu nous en diras plus après.
Ça marche.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
IDFM Radio, 98FM.
Nous revoilà avec nos invités. Charlotte nous expliquait qu'elle était à son premier rendez-vous pour essayer de comprendre ce qui se passait.
Exactement. Après plusieurs mois de d'essais infructueux, premier rendez-vous PMA, et donc là on rentre vraiment dans le système, donc l'assistance médicale à la procréation, donc le système médical, le corps médical va désormais réguler absolument toute notre vie, qu'elle soit personnel, intime, professionnel, puisque du coup on se retrouve confronté, donc effectivement l'infertilité est posée, elle est conjointement posée, et donc la rencontre en fait des deux dans ce couple là.
Attends, tu t'es passé sur l'infertilité comme ça? Enfin, c'est quand même un trauma, ça.
C'est un trauma, mais en fait quand on le pose, on se le dit même pas. En fait, c'est a posteriori. C'est là
après.
Où.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai écrit une pièce au bout de quasiment 3 ans de process. C'est parce que, en fait, l'objectif, c'est d'avoir un bébé. Donc, en fait, tout ce qui est autour, ok, on n'y arrive pas comme ça. Bon, bah, en fait, là, il y a l'espèce de, je sais pas, d'instinct un peu naturel, un peu combatif, où, non, mais c'est ça, l'objectif, c'est ça. Donc, on a des merdes, ok, on va y aller. Déjà, pourquoi on y va? Parce que si on commence déjà à se poser la question du trauma avant même d'essayer d'avoir un enfant, mais en fait, on s'effondre. Parce que pour l'homme, la question de l'infertilité, avec tout ce que ça pose d'enjeux, de virilité, de sa place, de son, même des choses qu'on a de nos ancêtres, hein, mais du guerrier, de celui qui va permettre la lignée, enfin tous ces trucs très très anthropos, très sociologiques, qui sont
très masculinistes,
aussi, mais ça c'est des vrais sujets même pour les plus déconstruits. En fait on n'y va pas, donc en fait on se pose pas ces questions et on espère, sauf que, et c'est là où moi ce process a, et jamais j'aurais imaginé, parce que plus combative que moi, plus structurée, organisée, avoir fait des des comptes rendus de réunion en avance, enregistrés sur mon téléphone pour que le jour où j'ai genre une écho à 7h du mat à Paris, ben, et que je dois dire à mes équipes, désolé, je serai pas à la réunion, qu'ils puissent quand même avoir le compte rendu de ce que je voulais leur dire, enfin des trucs mais assez fous. Et donc voilà, et donc en fait, évidemment, la PMA n'a pas fonctionné, mais elle n'a pas fonctionné pourquoi ? Parce que au-delà de l'infertilité, et c'est là le cœur de la pièce, c'est que toutes ces années où on essayait, etc., et où on n'y arrivait pas, nous a conjointement, mais peut-être un peu plus pour moi, révélé et mis face à des traumatismes d'enfance très forts, qui en fait, clairement, empêcher et empêche encore aujourd'hui toute projection de maternité pour moi en tout cas.
En fait, ce que j'essaye de comprendre, oui. Cette infertilité,
oui.
Elle serait liée à une conséquence. Ce serait une conséquence de ces traumas.
Alors l'infertilité médicale, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a un lien peut-être fait, mais en tout cas. Parce qu'on n'est pas sur des stérilités, on est sur des infertilités, ce qui n'est pas la même chose. Des infertilités, c'est-à-dire qu'en fait, on est avec même une médicamentation aujourd'hui un peu développée, il est possible de tomber, il est possible que moi je tombe enceinte, il aurait été possible que le couple que je formais avec cet homme-là puisse donner l'existence d'un enfant. Mais en fait, et c'est toute la dimension psy et interne que je viens évoquer dans la pièce, c'est que en fait, à partir du moment où la voie naturelle et donc ce délai moi que je laissais possible pour avoir un enfant était dépassé, en fait. Tout me revenait dans la tête, tout me revenait dans le corps et tous mes blocages, tout ce que j'avais réussi par le fruit de la sécurité amoureuse à déverrouiller un petit peu et à me dire « ok, c'est maintenant un bébé ». À partir du moment où on avait des obstacles qui, en fait, moi, venaient me dire « mais en fait, ces obstacles, c'est pas qu'ils sont là, c'est que tu les as pas traités, donc en fait, il faut absolument que tu les traites avant d'avoir un enfant ». Moi, c'est comme ça un peu que je l'ai, sinon ils vont se transmettre. Ben en fait, me refermer mes verrous et me redonner la perspective de faire autre chose de ma vie que de celui d'être maman et de confronter mon corps, de confronter mon corps à toute cette enfance et à tous ces phénomènes d'emprise que j'ai vécu, etc. Donc je sais pas si c'est clair.
C'est très clair. J'ai une envie furieuse d'aller plus loin avec toi. De comprendre, j'ai des questions comme ça que j'ai envie de te poser, mais je ne le ferai pas.
Oui, ok.
Parce que je pense que les réponses, elles sont aussi...
Dans la pièce.
Dans la pièce.
Absolument, oui.
Voilà.
Ouais, ouais.
Et je n'ai pas vu la pièce, je vais être honnête, je n'ai pas vu la pièce. J'ai l'intention d'aller la voir. Je vais aller la voir parce que, justement, ces questions vont avoir une réponse.
Où est cette pièce ?
Alors, oui. Voilà, merci Sylvain. et du coup... cette histoire, tu le dis, alors les auditeurs ne te voient pas, mais tu as un voilà, t'as l'air heureuse malgré tout. Enfin,
non, en fait.
T'as le sourire, enfin, oui. tu le dis, voilà, avec un visage lumineux. C'est une expérience difficile, bien sûr, elle est terrible, bien sûr, mais je pense que l'écriture...
oui, essentielle.
C'est un acte aussi peut-être thérapeutique pour beaucoup de gens, mais alors pour toi, t'es allé sur l'écriture d'une pièce de théâtre, et tu te livres dans cette pièce de théâtre. Et je tiens à en plus saluer cet homme qui a partagé ta vie, parce qu'il soutient ça.
Oui, incroyablement.
Il soutient ça. Et je trouve remarquable cette relation parce que c'est quelqu'un qui pose un regard bienveillant là-dessus, qui est concerné, pourtant qui te permet aussi de le partager, etc.
Oui, oui.
Ça, c'est juste magnifique. Et un homme déconstruit, sûrement.
Oui. Voilà.
Et c'est vrai que cette pièce de théâtre, je pense qu'elle va m'apporter toutes les réponses. Mais si je veux voir cette pièce de théâtre...
Faut aller où? Ouais.
Comment alors, s'appelle-t-elle déjà ?
Alors, elle s'appelle « Si c'est une fille, on l'appellera Violette ».
Pourquoi ce titre ?
Parce que ça part de ce désir-là qui est aussi très ancré dans nos cultures, de cette projection qu'on a aussi de la maternité, comme une fulgurance, comme un parcours de vie, comme un sens ultime, et que j'ai eu moi, parce que par le fruit de mon conditionnement aussi, avant de comprendre que ouais, que j'étais pas comme les autres membres de ma fratrie, et que si j'ai une fille, je l'appellerai Violette.
Ouais, d'abord, c'est, si j'ai une fille, je l'appellerai Violette, et puis
si c'est,
puis
une,
si
fille.
C'est une fille, eh bien, elle sera un médecin, et puis, puis on a plein de projections.
Absolument, hein, on a plein de projections. Mais c'est ça, c'est ce truc un peu, c'est ça, c'est cette projection de la maternité, ce dans quoi on baigne. Et Violette, bon, je pourrais en parler parce que je sais aussi pourquoi, mais bon, je pense qu'on n'a pas le,
on a
pas le temps.
On n'a pas trop. On
donc,
va pas.
Où la pièce se joue.
Où la pièce se joue.
Donc, elle se joue déjà jusqu'au 26 octobre au Guichet Montparnasse, les jeudis et les dimanches. Le jeudi à 20h45 et le dimanche à 18h. Et ensuite, elle va continuer sa route sur Paris. Elle va se jouer au local des autrices du 29 janvier au 1er février, 4 soirs de suite. Ensuite, au théâtre de Montmartre-Galabru, à partir du 20 janvier et jusqu'au mois de mars, tous les mardis, sur une dizaine de dates. Elle va jouer aussi à Roubaix, mais donc du coup, là, ça ne nous intéresse pas. Elle joue elle va jouer à l'hôpital américain, je n'ai pas encore la date, mais au mois de novembre. Et elle joue le 12 janvier dans un théâtre à Paris 11. Comment ça s'appelle déjà? Je ne l'ai plus en tête.
Mais voilà. Si on cherche, on trouve tout sur Internet.
Oui.
Je l'ai fait, hein. J'ai tout trouvé sur Internet.
Ouais, voilà. Absolument.
J'ai tapé le nom de la pièce et j'ai trouvé. J'ai même tapé ton nom et ça arrivait très vite.
C'est arrivé. Ouais.
Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y a cette pièce de théâtre, mais il y a aussi ton activité. Aujourd'hui, tu proposes aux institutions un accompagnement autour de théâtre d'improvisation, c'est
alors
ça ?
Non. Du théâtre en lui-même, mais en fait, je propose de monter des pièces sur un temps, des pièces de théâtre, que en fait, les jeunes qui adhèrent au projet montent exclusivement. Donc, en fait, ce que je propose, c'est des pédagogies alternatives exclusivement adaptées à ce public-là, puisque du coup, je le connais un peu par cœur. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des pédagogies alternatives, c'est-à-dire qu'en fait, on part... en fait, tout se crée par eux, et ce qui est très encadré, c'est finalement, en fait, tout le cadre autour de bienveillance, de communication, de les amener, en fait, à tirer et à exploiter leurs compétences là où ils ne l'imaginent pas. Donc, ça part de structure. En fait, c'est très, très organisé dans la pédagogie, mais on ne le voit pas, de sorte à créer vraiment un environnement qui en fait crée déjà un collectif entre eux où chacun se respecte a priori, et après évidemment c'est tissé et c'est repris, etc. Et en fait, pendant, une fois ce cadre-là posé, et sur une période de, pour la pièce que j'ai montée là cette année avec la sauvegarde du Val d'Oise, en 3 mois on avait une pièce montée. Alors évidemment, on peut toujours parfaire, mais qui a joué devant 200 personnes. Et en fait, à partir de synopsis que j'avais écrit avec un collègue, Nicolas Derrien, qui d'ailleurs met en scène aussi, si c'est une fille on l'appellera Violette, à partir de synopsis écrit que eux ont choisi collectivement, ben, la pièce s'est montée comme ça, hein. Leurs idées sont venus d'eux, on les a accompagnés à parler de leurs personnages, à les incarner, à émettre des idées. Et après ça, j'ai écrit, puisque du coup, moi, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de là, s'est déroulée la phase d'apprentissage pour eux, basée sur des impros, basée sur de l'accompagnement parfois aussi, juste à parler et à savoir dire, puisque les niveaux en fait n'étaient pas les mêmes, et certains avaient des vrais problèmes d'élocution, d'autres parlaient mieux. Donc comment est-ce qu'on crée de l'entraide entre tout ça pour justement ouvrir et gagner en confiance. Et l'objectif de ça c'est de pouvoir évaluer en fait sur la période des ateliers les compétences psychosociales que les jeunes acquièrent sans le savoir, par ce cadre-là qui est posé et par du coup cet intermédiaire du théâtre qui en fait les met en jeu et ne fait que jouer avec eux, enfin dans lequel eux-mêmes jouent, mais qui est en fait un champ d'exploitation énorme pour eux et qui en fait voilà grève et greffe des petites choses chez eux qui leur donnent plus d'aisance, qui leur donnent plus de oui c'est ça, de confiance en eux et qui peuvent après aller réexploiter un peu partout. Parce qu'il fallait les voir, les 200 qui jouaient.
Oh, j'imagine.
Oui, non, mais c'était incroyable.
Oui, oui.
Incroyable.
Et c'était sur le Val d'Oise.
Val d'Oise et dans l'énorme scène là qui a ouvert.
Je le sais 12. Plus.
Exactement, oui. Sur la scène, oui. Du 12.
Ah, Sergi.
Incroyable.
Ouais. Incroyable. Bravo,
ouais,
en tout
c'était
cas.
Fou, et puis, c'était fou.
Je vous recommande, alors, tous ceux qui nous écoutent, hein, les directeurs notamment d'établissements,
oui.
etc. Je vous recommande chaudement Charlotte Braquet, elle connaît les jeunes, elle connaît son métier, celui de la comédie aussi.
Oui.
Et c'est vrai qu'elle a déjà une expérience avec des jeunes sur cette approche autour de la pédagogie alternative, etc. Bravo Charlotte, et si, comment on fait pour te joindre?
Ben, je peux donner mon numéro, sinon mon adresse mail.
Il n'y a pas de risque,
Oui, ok, donc mon numéro c'est 06 83 38 00 83. Sinon, je suis sur Instagram, mais je ne suis pas hyper forte parce que je viens du social. Et sinon, mon adresse mail c'est charlotte.braquet@hotmail.fr.
Merci,
voilà.
Charlotte.
Merci beaucoup.
Suzanne, le témoignage de Charlotte, parce que, alors, on a maintenu le suspense parce qu'on veut que les auditeurs aillent voir sa pièce. Ils auront des réponses, mais t'as bien compris de quoi il s'agissait. Cette résurgence comme ça, oui. Post-traumatique sûrement, qui vient impacter même sa constitution physiologique, mm-hmm. biologique.
Bien
Est-ce
sûr.
Que c'est un témoignage qui te... que tu as pu entendre par ailleurs dans tes activités avec Move Enfant?
Oui, et que j'ai moi-même vécu. c'est très fréquent. Et c'est documenté, ça aussi, effectivement, dans le rapport de la CIVIS. On a tous, en fait, développé des problématiques de santé plus ou moins graves. Mais moi, dans mon cas, ça a été un cancer de l'estomac. Et des problématiques de fécondité aussi. Donc oui, malheureusement, c'est fréquent.
C'est fréquent. Mm. C'est terrible quand même d'entendre cette chose-là. C'est-à-dire que de dire que c'est fréquent, ce que tu veux dire par là, c'est que beaucoup de gens sont impactés aussi par ces phénomènes de violence sexuelle à l'enfance ou d'inceste, etc. Enfin, c'est très régulièrement que vous devez aussi accompagner des individus, des femmes souvent peut-être, ou des hommes même, qui
oui.
découvrent en fait les choses, parce que tout à l'heure Charlotte expliquait un peu son cheminement, et elle en avait pas conscience toute une partie de sa vie en réalité, et à un moment donné on développe des symptômes qu'on n'arrive pas à décrypter.
Exactement.
Et c'est ça qui est terrible, c'est de pas les comprendre, ces symptômes. Et c'est vrai qu'il est indispensable d'avoir des associations qui puissent aussi accompagner.
Les addictions font partie, hein, en l'occurrence. Hein. La dépression, les addictions, on les associe pas forcément. Les troubles alimentaires, c'est très très fréquent. L'anorexie, la boulimie, on les associe pas souvent. Et souvent, des problèmes passent à côté, en fait, clairement.
Et tu parles d'addiction, mais Sylvain, qu'est-ce que t'inspire le témoignage de Charlotte aujourd'hui? Est-ce que ça te conforte dans ce que tu as engagé aujourd'hui avec Parage? Parce que d'une certaine manière, ces enfants qui sont à risque d'aller vers ces conduites addictives, etc., souffrent aussi de la même manière, etc. Enfin, est-ce que tu as encore de l'espoir que Parage aujourd'hui continue son petit bonhomme de chemin et fasse des petits, j'entends des professionnels aguerris, capables aussi d'en former d'autres et d'impacter le plus de monde possible. Comment tu vois les choses à l'avenir?
De toute façon, en attendant que malheureusement la violence là, en direction que ce soit des enfants ou autres soit éradiquée, c'est encore un peu de temps, hein, malheureusement. Il y aura toujours besoin effectivement de d'accompagner les personnes vulnérables, de protéger, hein, que ça soit même les situations de danger ou même même si le danger n'est pas encore avéré, hein, faut pas oublier, hein, ça faut faire de la prévention. Moi, plus particulièrement par rapport à Parage, par rapport aux suites, ce que je dirais, ce que j'ai pu constater, c'est vraiment les lacunes qu'il y a dans notre secteur et tout ce qui est en prévention, promotion de la santé. Alors, j'ai juste parlé vraiment de la protection de l'enfance. Culturellement, c'est qu'on a l'habitude d'agir après coup, une fois que l'enfant doit être protégé parce que le danger a été avéré et qu'il y a eu malheureusement déjà de la maltraitance ou de la négligence ou autre chose. Et donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans notre secteur pour tout ce qui est prévention et promotion de la santé. De manière très très large, hein, d'ailleurs, hein. Puisqu'effectivement on est moins dans le terme de prévention, tel que l'entend la santé, prévention universelle et autres. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que ce filon, si je puis dire, des compétences psychosociales est vraiment à tirer, puisque la science mesure et la science montre que ça fonctionne. Et donc voilà, c'est déjà un premier pas si de manière très très globale. Alors l'éducation nationale le fait, par exemple, il y a le programme Unplugged qui est aussi déployé en éducation nationale pour développer les compétences psychosociales et pour faire de la prévention, notamment en termes de conduite addictive. Mais c'est quelque chose dont toute la société évidemment doit s'en emparer. L'éducation nationale, c'est bien. Évidemment, les structures de protection de l'enfance, parce que les personnes sont déjà vulnérables, ça reste encore des enfants qui sont à être protégés, voilà, à protéger. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, au niveau notamment des compétences psychosociales, et j'espère que en tout cas une des continuités de Parage, en dehors de ce qu'on peut faire au niveau des institutions, c'est d'essayer de développer des programmes de développement des compétences psychosociales, des initiatives comme celle de Charlotte, effectivement, à proposer, voilà, par un autre biais, parce que effectivement, il faut trouver des moyens différents pour atteindre les gens et pour faire en sorte qu'ils se saisissent des choses, que ça leur plaise et qu'ils en font quelque chose de positif pour eux. Et donc, j'espère qu'effectivement, notamment, un des axes là, c'est ce programme de soutien aux familles à la parentalité qui s'adresse et aux parents et aux enfants.
L'émission s'achève. On vous retrouve pour une prochaine émission avec d'autres voix de l'engagement qui viendront nous partager leur quotidien, leurs actions, etc. Des gens qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins bien, mais vous êtes tous les bienvenus. Et si vous voulez, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, YouTube et TikTok. Et vous pouvez trouver sur YouTube l'émission en intégralité. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.